بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous reprenons notre série. Le premier cours, la question que nous avions posée, c'était « Pour qui j'apprends le Coran ? Pour qui je lis, je récite le Coran ?» La deuxième question que nous nous sommes posées dans le cours suivant, c'était « Comment ou pourquoi j'apprends le Coran ? Pourquoi je lis le Coran ?» Et là, dans le premier cours, on a rappelé l'importance de l'ikhlas, de la sincérité dans ta lecture, dans ton apprentissage. Et dans le deuxième cours, nous avons rappelé les mérites et les grandes récompenses qu'il y a derrière l'apprentissage et la lecture du Coran. Aujourd'hui, une troisième question vient à nous. Comment ? Kayfa atlu al-Qur'an ? Comment je récite le Coran ? Et c'est une question qui est très importante, puisqu'en réalité, chacun d'entre nous ne peut ignorer ce sujet. Lorsque nous récitons le Coran, il y a un comportement, un adab, des bienséances. Ce sont d'une manière générale des choses qui sont fortement recommandées et pour la plupart d'entre elles, ce ne sont pas obligatoires. Mais il est important que le lecteur, que le musulman, lorsqu'il récite le Coran, il s'embellit. Il s'embellit de ses nobles comportements. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous doit connaître ces choses-là et personne ne peut les ignorer. Pourquoi ? Parce que dans les comportements que nous allons citer, on va revenir toujours sur le même sujet. C'est que tout cela est fait par respect envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de savants ont écrit sur ce sujet. C'est pour cela que le temps que nous avons, on ne peut pas tout citer. Simplement, nous allons résumer les choses les plus importantes, comme on a dit que personne ne doit ignorer. Et le fait que nos savants, rahmatullahi alayhim, ont écrit sur ce sujet, ont édité des livres et des chapitres sur le comportement que le lecteur doit avoir lorsqu'il récite, cela nous prouve l'importance et la grande valeur qu'a cette adoration qui est la lecture du Coran. Puisqu'en réalité, lorsque l'on médite sur notre vie, il y a quoi de plus beau dans notre vie que de se couper de ce monde, de s'arrêter et d'être entre toi et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De réciter la parole du Créateur, de méditer sur la parole du Seigneur de l'univers. Il y a quoi de plus beau en réalité que cela ? Qu'est-ce que notre langue peut dire, peut réciter de meilleur que de réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en s'ornant, en s'embellissant, en se parant de ces nobles caractères lorsque tu récites le Coran, en réalité derrière cela tu vas gagner la baraka, tu vas gagner la bénédiction dans ta lecture, tu vas gagner l'ajar, la récompense, et également tu vas tirer un profit magnifique de la récitation du Coran. Alors, le premier comportement que l'on peut citer, qui est un comportement essentiel et important, c'est lorsque tu récites le Coran. Tu vas réciter le Coran, il est important de purifier ta bouche. Il est important que ta bouche soit purifiée, et notamment à l'aide du siwak. Parce que le fait de purifier cette bouche avec laquelle tu vas réciter ce Coran, cela en réalité fait partie de la piété des cœurs. Que ce soit la nuit ou que ce soit le jour, purifie ta bouche à l'aide du siwak. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu dois commencer par cela. Ta bouche, ça va être le chemin vers lequel le Coran va passer pour arriver à ton cœur. Cette récitation, elle va passer par ta bouche. Voilà pourquoi il est important de purifier ce chemin, de purifier cette route, de purifier cette voie de toutes les mauvaises odeurs. Lorsque tu parles avec tes amis, tu es avec des frères, automatiquement, tu détesterais avoir une mauvaise haleine. Et comme toi, lorsque tu t'adresses à quelqu'un qui a une mauvaise haleine, tu vas t'en écarter. Là, que dire? Tu vas réciter la parole du Seigneur de l'univers. Tu vas réciter la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cela mérite respect, cela mérite honneur, cela mérite vénération. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala il dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah azza wa jalla il dit dans surat al-hajj, surat le pèlerinage, le verset 32, dans le sens du verset, et il en est ainsi. Quiconque honore, vénère les rites sacrés d'Allah, alors aura accompli ce que relève de la piété des cœurs. Voilà pourquoi il est important que dans toute adoration, je donne l'importance à cette adoration, notamment cette adoration qui est la lecture du Coran. Je dois lui donner toute sa valeur, toute son importance, et cela passe par le fait de purifier ma bouche. Et il n'y a rien de plus beau que de purifier ta bouche avec le siwak. Ce siwak où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé deux choses par rapport au siwak. Il dit mutahharatun lil fam. Le siwak, il purifie ta bouche. Et médicalement, c'est quelque chose d'incroyable. Les bienfaits du siwak sur la bouche de la personne, c'est énorme. Mais nous, ce qui nous intéresse également, c'est la deuxième caractéristique. Que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, « Mardatun lirrab ». C'est qu'en plus de purifier ta bouche, le siwak, il satisfait ton Seigneur. Le siwak, il satisfait ton Seigneur. Et notamment le fait d'utiliser le siwak tout le temps. Que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que tu avant la prière ou en dehors de la prière, peu importe. Utilise le siwak tout le temps. Mais surtout, lors de la récitation du Coran. Le siwak et la récitation du Coran ont un lien énorme. Écoutez ce que rapporte l'imam al-Bayhaqi. Et les deux hadiths que nous allons citer, ils ont été rapportés par l'imam al-Bayhaqi. Il dit Tayyibu afwahakum bis-siwak. Parfumez, purifiez vos bouches du siwak, fa innaha turuqul Coran. Car en réalité, vos bouches sont les voies par lesquelles le Coran va passer pour arriver à votre cœur. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez ce hadith magnifique. Et en réalité, si l'on médite sur ce hadith, on ne va plus lâcher le siwak lors de notre récitation du Coran. Il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous se lève la nuit pour prier, qu'il utilise le siwak. Écoutez la recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il utilise le siwak, il dit car lorsque l'un d'entre vous récite dans sa prière, bien sûr, il a utilisé le siwak, وَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلَى فِيهِ. Un ange, donc tu as utilisé le siwak, tu t'es mis à prier ou tu t'es mis à réciter le Coran, un ange s'approche de toi et il met sa bouche dans ta bouche. Et il n'y a rien qui sort de ta bouche sans qu'il n'entre dans le cœur de l'ange, sans qu'il entre dans la bouche de l'ange. Donc, subhanallah, le fait d'utiliser le siwak avant la lecture du Coran, cela va être la cause que les anges vont s'approcher de toi et notamment qu'ils mettront leur bouche dans ta bouche et ils goberont ce qu'il y a du Coran, ce que tu récites du Coran. Et également, nous savons que les anges, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'informe, les anges sont touchés par la bonne odeur comme ils répugnent la mauvaise odeur du fils de Adam, de l'être humain. Les anges aiment ta bonne haleine comme ils détestent ta mauvaise haleine. C'est pour cela que si tu as mauvaise haleine lorsque tu récites le Coran, les anges vont s'écarter de toi. C'est pour cela que les savants nous donnent une exhortation magnifique. Ils nous disent, ne fais pas partie de ceux qui vont éloigner les anges. Et comme on l'a cité tout à l'heure, il y a quelqu'un, tu t'assois à côté de lui, il commence à te parler, oulala, tu sens la mauvaise, automatiquement tu ne vas pas vouloir rester à côté de lui et tu vas t'en écarter. La même chose avec les anges. Donc il est important également, lorsque tu récites le Coran, que tu prennes conscience de cela et que tu, euh, tu fasses en sorte d'avoir ce bon comportement à chaque fois que tu lis. Et également, même si tu ne les vois pas, c'est comme là, nous sommes dans une assise de dhikr, une assise où on se rappelle d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne voit pas les anges autour de nous, mais nous sommes certains qu'ils sont autour de nous. Nous sommes certains que comme nous nous rappelons du livre d'Allah Azza wa Jal, de la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam, ils nous entourent. Ils nous entourent dans leurs ailes et cela remonte jusqu'au ciel. Na'am, nous ne le voyons pas, mais nous sommes certains de cela. La même chose, lorsque tu utilises le siwak et que tu récites le Coran, tu dois être certain que l'ange s'approche de toi et met sa bouche sur la tienne. Voilà pourquoi il est important d'avoir ce noble comportement et de prendre conscience de cela. Également, parmi les comportements qui sont importants à avoir lorsque tu récites le Coran, c'est de passer en priorité la récitation à partir du mushaf. C'est-à-dire que même si tu connais la sourate que tu récites, même si tu connais tout le Coran, il est meilleur de toujours lire, de réciter à partir du Coran. Et cela pour plusieurs choses. Premièrement, parce que lorsque tu vas réciter à partir du mushaf, donc le support du Coran, tu vas lier entre deux ibadah, entre deux adorations. La première adoration, c'est an-nadharu ila al-mushaf, an-nadharu ila kalamillah. Le fait de regarder, ne serait-ce que de regarder la parole d'Allah, c'est une adoration. Et tu es récompensé. Tu ouvres le mushaf et tu regardes. Et tu médites. Des fois, tu peux méditer sur les sens sans réciter. Tu prends le mushaf. Ah, subhanallah, ça parle du paradis. Et tu te remémores le paradis. Ah, ça parle de la mort. Ça, c'est une adoration. Premièrement, ça, c'est une adoration. Deuxièmement, donc c'est le fait de regarder le mushaf, on a dit, c'est une adoration ibadatu al-ayn. C'est une adoration que tu fais avec tes yeux. Et le fait de réciter, tilawatu kitabillah ibadatu al-lisan. C'est une adoration que tu fais avec ta langue. Donc, ça, c'est un comportement important à avoir. Et comme on le verra, cela est plus propice pour la concentration. Lorsque tu regardes le mushaf, tu es concentré dans ton mushaf là. Tu es concentré dans cela et cela va t'écarter de la distraction. Ensuite, une chose aussi importante à savoir, c'est que lorsque tu as le choix entre lire à partir d'un mushaf et lire à partir de ton téléphone, passe en priorité le fait de lire à partir du mushaf. Quand tu as le choix, quand tu as la possibilité. Si tu n'as pas de mushaf et tu as que le téléphone, tu peux lire à partir de ton téléphone, tu seras dans l'adoration également. On revient rapidement sur le fait de passer la priorité sur le fait de regarder le mushaf. Ici, les savants nous donnent un détail. Ils nous disent ce qui est recherché par cela, c'est la concentration. Si tu es concentré en regardant le mushaf, dans ce cas-là, c'est meilleur. Si toi, par contre, tu es plus concentré lorsque tu récites de ce que tu as appris, ce que tu connais, tu es plus concentré, dans ce cas-là, les savants, ils vont dire, dans ce cas-là, lis sans le mushaf si vraiment tu es plus concentré. Si pour toi c'est égal à égal, dans ce cas-là, passe en priorité le fait de lire directement du mushaf. Parmi les comportements importants, et qui sont même obligatoires pour une grande partie de nos savants, c'est que lorsque tu lis le Coran, tu es en état d'ablution. Tu es en état d'ablution. Là, il est très important de s'accrocher à cela et de réciter le Coran en ayant tes ablutions. Si la personne est en état d'impureté majeure, elle est en état de janaba, à ce moment-là, elle ne récite rien du Coran. Elle ne récite rien jusqu'à ce qu'elle se purifie. Jusqu'à ce qu'elle se purifie, dans ce cas-là, elle ne récite pas. Par contre, si tu n'as pas tes ablutions, on a dit il est préférable, voire même obligatoire, si tu veux toucher le Coran, de faire tes ablutions. Maintenant, tu es dans une situation où tu ne peux pas faire tes ablutions, et ça arrive. Tu es dans une situation où tu ne peux pas faire tes ablutions, peu importe pour quelle raison. Dans ce cas-là, on va te dire, récite le Coran à partir de ce que tu connais. Tu récites. Fatiha, Al-Ikhlas, Falaq. Tu récites ce que tu connais, les sourates que tu as apprises. Par contre, tu ne vas pas toucher directement le mushaf. Mais est-ce que tu peux lire à partir du mushaf? Na'am. Les savants ont dit, même si tu ne connais pas grand-chose et tu as envie de lire ou tu as envie de continuer ton programme de lecture, dans ce cas-là, tu peux lire à partir du mushaf sans le toucher directement. Un exemple, tu prends un stylo. Tu vas prendre un stylo et tu vas qara. Tu vas qara et tu vas tourner la page comme cela avec ton stylo. Cela, les savants ont autorisé. Par contre, le fait de le toucher directement, cela ne fait pas partie des comportements à avoir. Et ils tirent cela de ce que le prophète alayhi salatu wasalam a envoyé aux gens du Yémen. Lorsqu'il leur a envoyé une lettre en leur donnant des recommandations, il a dit « La yamassul Qur'an illa tahir » Ne touche pas le Qur'an, sauf la personne qui est en état de pureté. Ensuite, les savants ont divergé sur la femme qui a ses menstrues et ses lochis. Est-ce qu'elle, elle fait partie de ceux qui sont en état d'impureté majeure, comme pour l'homme? Est-ce qu'ils ont le même degré? Dans ce cas-là, ceux qui sont de cet avis-là, elles disent qu'elles ne lisent pas. Mais d'autres savants, ils disent non. Ils disent qu'on ne peut pas comparer la femme qui a ses menstrues ou même ses lochis à celui qui est en état d'impureté majeure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle, cette période, elle dure. Cette période, elle dure, donc on ne peut pas lui dire de ne pas réciter le Coran durant toute cette période. Dans ce cas-là, pour certains savants, et Wallahu A'lam, c'est ce que l'on peut soutenir ici, c'est qu'elles disent en fait qu'elle est au même stade que celui qui n'a pas ses petites ablutions. Donc dans ce cas-là, elle va pouvoir réciter, elle va pouvoir même lire directement à partir du mushaf, mais elle ne va pas le toucher directement. Elle ne va pas toucher directement cela, et bien sûr, c'est un sujet à divergence. Également, parmi les comportements que l'on peut citer, c'est que lorsque tu es en train de réciter et tu es pris de gaz ou de bâillement, à ce moment-là, le temps que tu bailles, le temps que tu as, que ce gaz sort, tu arrêtes la récitation, tu arrêtes la lecture, parce que cela fait partie du respect envers la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Au niveau du gaz, il est meilleur d'aller refaire tes ablutions, d'aller refaire tes ablutions et de reprendre la lecture. Par contre, si tu ne fais pas tes ablutions directement, dans ce cas-là, ce que l'on vient de dire par rapport à celui qui est en état de petite impureté, celui qui n'a pas ses ablutions, dans ce cas-là, tu ne toucheras pas le mushaf directement, mais il n'y a pas de mal à continuer à réciter. Par contre, un point essentiel lorsque la personne elle baille, ici, malheureusement, certaines personnes, elles baillent, elles continuent à réciter. Comme si de rien n'était. Et ici, il y a plusieurs erreurs. Premièrement, les savants disent que c'est un manque de respect envers le Coran. Et tu peux même perdre la récompense de la lecture, puisqu'en réalité, ce que tu vas réciter avec ta bouche ouverte, avec le son qui est... Ce n'est plus le Coran en réalité. Donc ici, tu vas perdre cette récompense. Donc parmi les bons comportements, et également parmi les bons comportements, c'est « Zuyinul Coran bi aswatikum »« Embellissez le Coran de vos voix ». Et ici, automatiquement, ta belle voix va partir avec le bâillement. Donc, lorsque tu bailles, et ça c'est lorsque tu lis le Coran, même en dehors de la lecture du Coran, la sunnah est de respecter trois choses. Premièrement, lorsque tu sais que le bâillement arrive, tu dois t'abstenir. Essayer de ne pas bâiller. Si tu n'y arrives pas, dans ce cas-là, tu fermes la bouche. Et pour cela, tu as besoin d'arrêter ta lecture. Tu fermes la bouche et tu vas bâiller à l'intérieur avec la bouche fermée. Si tu n'as pas réussi et ta bouche est restée ouverte, à ce moment-là, tu caches avec ta main. Tu fermes ta bouche avec ta main, tu caches cela. Ça, ce sont les traditions prophétiques qu'il y a à ce moment-là. Mais que dire de la personne qui baille? Ni il essaye de s'abstenir, ni il ferme la bouche, il garde la bouche ouverte et en plus, il récite le Coran. Hein. En plus de cela, cela ne fait pas partie des bons comportements à avoir. Également, parmi les bons comportements à avoir, donc là on les cite, on n'a pas le temps de citer les adillah et les preuves par rapport à cela, mais toutes les preuves sont notamment dans les livres qui parlent de ce sujet. Celui qui veut revenir vers cela, il revient notamment au livre de l'imam al-Ajuri sur le adab hamalat al-Qur'an, le comportement de celui qui porte le Qur'an, de celui qui nie et qui apprend le Qur'an, etc. Parmi les comportements, il y a le fait de donner l'importance à ce que l'on appelle sujoud al-tilawa. Le fait de se prosterner lorsque tu lis le Qur'an, il y a des passages dans le Qur'an. Alors il y a 15 passages dans le Qur'an. Les savants sont unanimes qu'il n'y a pas plus de 15 passages dans le Coran où tu vas devoir te prosterner. Il y a cette petite sajda, tu te prosternes. Ensuite, il y en a 10 10 passages sur lesquels les savants sont unanimes. Les 10 passages sont unanimes. Ensuite, il y en a 5 où les savants ont divergé. Un exemple pour le madhhab de l'imam Malik, eux, ils considèrent qu'il n'y en a que 11. Pour le madhhab de l'imam Shafi'i, ou même le madhhab de l'imam Ahmad et le madhhab de l'imam Abu Hanifa, il y en a 14. Donc en réalité, quand on jma'a tout, il n'y en a 15 en tout. Et wallahu alam, on se prosterne sur les 15. Comme ça, tu es tranquille. Tu te prosternes sur les 15. Donc à chaque fois qu'il y a cette prosternation, tu te prosternes. Et ici, il est important. Il est important de prendre conscience que qu'est-ce que tu gagnes quand tu te prosternes dans la prosternation de la lecture. Tu gagnes deux choses. Premièrement, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, tu humilies. Dans cette prosternation, il y a une humiliation contre le shaitan. Écoutez ce qu'il dit, le hadith il est dans Sahih Muslim. Ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, lorsque le fils de Adam, lorsque l'être humain lit une prosternation, yani dans la lecture du Coran, il y a une prosternation, et qu'il se prosterne, shaitan s'écarte. Ya'tazil, wa yabki, et il se met à pleurer. Subhanallah. Il y a quoi de plus beau que de faire pleurer le shaitan? Il s'écarte et il se met à pleurer. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez la parole de shaitan. Il dit « Wayli, umira ibn Adam bisujud ». Il dit « Malheur à moi, il te voit prosterné. Malheur à moi, on a ordonné à l'être humain de se prosterner. » Fasajad, il s'est prosterné. « Walahul jannah » et il a gagné le paradis. « Wa umirtu bisujud » Par contre, moi, on m'a ordonné de me prosterner, fa'abayt. J'ai refusé de me prosterner, fa'liyannar. Et j'ai obtenu l'enfer. Regardez, subhanallah al-azim. Donc ici, là, et là, on voit l'importance de cette adoration qui est le sujoud. L'importance de cette adoration qui est le sujoud. Donc, on a dit, il est important que ces 15 moments, ces 15 passages, ces 15 endroits dans le Coran, on doit se prosterner à ce moment-là. Donc le premier, on les cite rapidement, il est à la fin de Surat Al-A'raf, Surat numéro 7. C'est là le premier, la première au verset 206. Ensuite, on l'a au verset de Ra'd, Surat numéro 13, le verset 15. Ensuite, Al-Nahl, Surat numéro 16, le verset 50. Ensuite, Al-Isra, Surat numéro 17, le verset 109. Surat Maryam, verset 19. Surat 19, verset 57. Ensuite, on en a deux dans Surat Hajj. Le premier, ils sont unanimes dans le verset 18. Par contre, dans le verset 77, ici, seulement le madhab de l'imam Shafi'i et le madhab de l'imam Ahmed sont d'avis que tu te prosternes. Ensuite, Al-Furqan, Surat 25, le verset 60. An-Naml, Surat 27, verset 26. Surat Sajda, la prosternation, verset 15. Ensuite, Surat Sad, c'est une prosternation où il y a divergence. Ça, c'est pour le Hanafiya et le Malikiya. Ils considèrent que tu te prosternes dans le verset 24. Surat Fussilat, le verset 38. Surat, la fin de Surat Najm. Et en fait, les trois dernières dans le Mufassal, les savants ont divergé également. Donc, Surat Najm, Surat 53, Surat Al-Inshiqaq et la fin de Surat Al-Alaq. Donc ici, on a nos 15 passage, il est important, lorsque la personne passe par un de ces passages, qu'il se prosterne, qu'il peut dire Allahu Akbar à ce moment-là, et Allahu Akbar quand il se relève, qu'il soit purifié. Donc là, les savants, ils ont divergé. Certains disent que tu n'es pas obligé d'avoir tes ablutions si tu es en dehors de la prière. Bien sûr, si tu es dans la prière, tu auras tes ablutions. Par contre, si tu lis sans ablution, ils disent que tu peux te prosterner quand même. Et il est important de dire, donc qu'est-ce que tu dis dans cette prosternation? Tu dis Subhan Rabbi al-A'la, comme dans la salat. Et également, tu peux dire une invocation, il y en a plusieurs, mais tu peux dire celle-ci, Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwati. Mon visage s'est prosterné devant celui qui l'a créé, lui a procuré son ouïe et sa vue par sa force et par sa puissance. Tabarak Allahu ahsanul khaliqin, gloire à Allah Azza wa Jal, le meilleur des créateurs. Ensuite, on essaye de terminer rapidement. Parmi les bons comportements à avoir lorsque tu récites le Coran, c'est de te tourner en direction de la Qibla. Il est meilleur déjà d'être assis. Ça, c'est la meilleure position dans laquelle tu peux réciter le Coran, c'est assis en face de la Qibla. Quand on dit en face de la Qibla, c'est-à-dire ton visage il est en face de la Qibla, comme vous, vous êtes assis ici en face de la Qibla. Ça, c'est la meilleure manière. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Tu peux réciter le Coran en marchant. Tu peux réciter le Coran, être allongé avant de t'endormir. Tu peux le réciter le Coran dans toutes les positions. Tu es en voiture, tu es dans l'avion, peu importe. Tu peux réciter le Coran. Si tu as la possibilité de te tourner face à la Qibla, c'est meilleur. Si tu as la possibilité d'être assis, c'est meilleur. Par contre, ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires. Et là, on voit l'importance de la Qibla. C'est la direction de la prière. Lorsque tu fais du'a, lorsque tu nies, lorsque tu fais du dhikr, il est toujours meilleur d'être en face de la Qibla. Donc on répète, ce n'est pas obligatoire, mais c'est « al-afdal, al-akmal, wal-atam ». Également, parmi les bons comportements à avoir lorsque tu récites le Coran, c'est de vivre le Coran, vivre ta récitation. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Ne médite-t-il pas sur le Coran? Donc, il est important de chercher à savoir ce que veut dire ta récitation. Donc, lis, achète, offre en cadeau. C'est bientôt l'Eid, Inch'Allah. Tu ne sais pas quel cadeau à offrir. Offre les livres de tafsir. Tu prends le livre de tafsir, offre un livre de tafsir, l'explication du Coran. La personne, elle va comprendre ce que veut dire la Fatiha, ce que veut dire telle sourate, ce que veut dire telle sourate. C'est important de lire, de s'intéresser, d'écouter les cours qui sont donnés dans les cours de tafsir. Également, tu dois réfléchir, méditer sur cela. Tu ne dois pas lire le Coran comme si tu lisais n'importe quel livre. Au contraire, les savants, ils disent, quand tu lis le Coran, tu dois pleurer. Pleurer pourquoi? Premièrement, tu dois pleurer de joie. Tu es en train de lire la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu es en train de lire la promesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait aux croyants. Na'am, pleure de joie pour cela. Également, tu dois pleurer de crainte. Tu es en train de lire le châtiment que certains ont dans leur tombe, le châtiment qu'Allah Azza wa Jal a réservé à ceux dans l'enfer. Cela, on ne doit pas rester insensible à cela. Également, lorsque tu lis, ta peau doit frissonner. Et subhanallah, quand tu regardes les savants lorsqu'ils parlent du Coran, ils passent par des passages qui parlent de l'enfer. Wallah, et tu vois, leur visage, il change. Leur visage, totalement, il change. Parce que ça parle de l'enfer, parce que ça parle du châtiment, parce que ça parle de cela. Parce que à ce moment-là, lorsque tu lis le Coran, tu dois te repentir, tu dois regretter pour les péchés que tu as faits. Et lorsque ça passe par des passages qui parlent du paradis, ton visage doit être heureux. Subhanallah, on doit voir à ton visage si tu passes par un passage du paradis ou un passage de l'enfer. On ne doit pas lire le Coran comme malheureusement c'est notre cas pour la plupart d'entre nous, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. On lit, ça parle du paradis ou de l'enfer, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment important de prendre conscience de cela. Et comme le prophète alayhi salatu wa salam, il le faisait, lorsqu'il passait près d'un verset qui parle du paradis, il s'arrêtait. Et ça, c'est dans les prières obligatoires ou dans ta lecture en dehors de la prière. Pas dans les prières obligatoires. C'est dans les prières surrogatoires, pardon. Et dans la lecture en dehors de la prière et non dans les prières obligatoires. Tu passes par un passage qui parle de la promesse du paradis. Nas'alullah min fadlik. Nas'alullah min fadlik. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de donner de ses grâces. Tu passes par un passage qui parle de l'enfer. Na'udhu billahi min. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te préserver. Et c'est pour ça que des fois dans Tarawih, tu entends que l'imam ou le shir, il s'arrête et il dit des choses. Tu ne comprends pas pourquoi. En réalité, parce qu'il fait comme le prophète, alayhi salatu wa salam, il demande la protection parce qu'il est passé par ce passage-là, et il demande là. Également, lorsque tu passes par ce qu'on appelle les versets de Tanzih, un exemple, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, et ils ont dit, que le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Subhana, Allah tabaraka wa ta'ala dit cette parole. Toi aussi tu dois dire subhanallah. Parce que lorsque tu dis subhanallah, tu renies qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède tous les défauts et qu'il s'attribue à un enfant, etc. Donc il est important de vivre le Coran. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalil dit innama al-mu'minun. Les vrais croyants sont ceux qui, lorsque l'on mentionne Allah, leur cœur frémit. imana, et dont la foi augmente lorsque l'on récite les versets wa ala rabbihim yatawakkalun, et ils placent une entière confiance à leur Seigneur. Donc la conclusion, c'est que lorsque tu lis le Coran, tu dois être concentré. Et si ça peut t'aider de lire une page en français et ensuite tu la lis en arabe, commence par le français, parce que tu maîtrises le français, et ensuite en arabe, subhanallah, ça va, tu vas apprendre des mots. Ah oui, là c'est vrai, ça parle de Sulayman. Ah oui, là c'est vrai, ça parle de ceci, ça parle de cela. Et en plus, si tu rajoutes le tafsir, tu vas comprendre telle histoire, la cause de la révélation, tu vas vivre le Coran et tu vas réussir à faire cela. Également, parmi les moyens pour être concentré lors de ta récitation du Coran, c'est que reste concentré dans ta lecture. C'est pour cela qu'on a dit le mieux, c'est de regarder le mushaf. Mais celui qui récite et il est là avec son téléphone, celui qui récite et il continue à envoyer, et il est là et il dit bonjour à tout le monde, et il regarde à gauche, à droite, non. Tes yeux ont un impact sur le cœur. C'est pour cela que dans la prière, le prophète alayhi sallam nous a enseigné de regarder l'endroit où tu vas te prosterner. Pourquoi? Parce que tes yeux, automatiquement, ce que tu vas voir, ça va te distraire. Donc, ne sois pas distrait. Et ça, c'est important. Quand on enseigne le Coran aux enfants, ça, c'est un adab qu'on se doit de leur obliger. Tu regardes le mushaf, tu arrêtes de regarder à gauche, à droite, ceci, cela, sinon l'enfant, il va jouer la moindre mouche qui va passer, il va la suivre, etc. La même chose pour nous. La même chose pour nous. Donc, on se doit de ne pas être distrait, et encore pire avec le téléphone. On lit le Coran et on a le téléphone à côté. Non, là c'est le temps du Coran. Laisse ton téléphone où il est. Et combien de fois tu lis une page et tu lis et ça y est, t'as lu 2 minutes le Coran et t'es parti 20 minutes dans ton téléphone ou dans la télévision ou dans ceci ou dans cela. Ça c'est important. Également, si tu sens que tu lis et que tu t'endors, dans ce cas-là, soit tu changes de place, soit tu vas refaire tes ablutions, soit tu dors un peu, mais le but, c'est d'être concentré. Il vaut mieux t'arrêter de lire et de dormir un peu, ou te reposer, ou te changer les idées, que de te forcer et tu ne prends pas conscience de ce que tu dis. Donc, le résumé de tout ça, c'est que tu lis assis, tu es totalement purifié, tu as des habits propres, tu es parfumé, tu as le siwak, tu es serein, tu es humble, tu es concentré, tu médites sur ce que tu fais et tu prononces le Coran avec une belle voix. Tu prononces le Coran avec une belle voix. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu quelqu'un dans la mosquée en train de réciter. Il a dit, qui est-ce? Qui est cette personne? Il lui a dit, lui, c'est Abdullah ibn Qais. Vous savez ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il était impressionné par sa voix. Il a dit, Allah azza wa jal lui a donné la voix de la famille de Daoud. Parce que le prophète Daoud, alayhi salam, Allah azza wa jal lui a donné la voix, le summum de la beauté dans la voix. C'est pour cela qu'on se doit d'embellir notre récitation. Mais là, sans exagérer. Ça veut dire quoi, embellir ta voix? Embellir ta voix, ça veut dire en fonction de ta capacité. Ta voix, c'est Allah qui te l'a donnée. Donc, prends la voix que tu as, n'essaye pas de changer de voix ou d'exagérer. Non, fais ce qu'Allah Azza wa Jal, avec ce qu'Allah t'a donné, tu embellis au maximum. On rapporte de l'imam Ahmed qu'une personne lui a posé une question par rapport à l'exagération dans la lecture. Et vous savez ce qu'il lui a dit l'imam Ahmed? Il lui a dit, Masmouk, comment tu t'appelles? Il lui a dit, Ismi Mohamed. Il lui a dit, que dis-tu? Si une personne, elle te voit dans la rue, elle te dit, eh, Mohamed. Est-ce que c'est comme ça que tu t'appelles? Tu t'appelles pas Mohamed. Tu t'appelles Mohamed. La même chose avec la parole d'Allah, Azza wa Jal. Tu te dois de la réciter comme il se doit. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre les règles de tajwid, d'apprendre les règles de qira'ah, au moins le minimum, de se faire corriger les erreurs. Et ça, c'est important. Ne serait-ce que la Fatiha. La Fatiha, chacun doit se remettre en question. Et chacun va voir l'imam, le da'i, le professeur de sa mosquée et il se fait corriger sa Fatiha. On ne doit pas rester comme cela avec des problèmes de prononciation, avec des erreurs, etc. Non, on doit éviter ces erreurs. Et tous ces comportements-là, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter ici. Tous ces comportements-là, en réalité, ils vont avoir un impact sur toi. Wallahi, mes frères, quelqu'un qui connaît le Coran, quelqu'un qui lit le Coran, quelqu'un qui vit avec le Coran, on doit le voir sur lui. On doit voir qu'il est honnête, qu'il est loyal. On doit voir que c'est une personne qui est juste. On doit voir que c'est une personne qui respecte les droits. Les droits d'Allah, notamment les adorations, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Il respecte le droit des gens, le droit de ses parents, le droit de des voisins, le droit de ses frères et sœurs à la mosquée, et également le droit de son âme, il se préserve des péchés. Celui qui va lire le Coran comme il le faut, il va trouver cela dans son cœur. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka antallah. ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.